VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité. Jacques Aristide et Anne Albertson en votre compagnie en ce lundi 27 juillet 2015. Au sommaire ce matin, la sécurité régionale au cœur de la visite du président américain Barack Obama en Éthiopie.
En Somalie, au moins 13 morts dans un attentat revendiqué par Al-Shabaab contre un hôtel de Mogadiscio.
En Guinée, l'opposant Seloud Alain Diallo investi pour la présidentielle.
Je m'engage à être un président gardien vertueux de notre constitution. Je m'engage à être un président respectueux de la parole donnée.
La tension ne retombe pas en Turquie. Nouveau raid contre les rebelles du PKK. Un policier tué à Istanbul.
Et dans la partie magazine, coup de projecteur sur le dialogue alternatif de l'opposition au Congo-Brazzaville.
Les participants au dialogue ont par consensus opté pour les réformes institutionnelles.
Faux, rétorque. Joseph Kinyumi Kiambungu, député de l'opposition qui s'est rendu à Sibiti.
Ne manquez pas non plus la Minute Éco et le billet sportif.
Le président américain Barack Obama est arrivé hier soir en Éthiopie pour une visite de 2 jours consacrée à des rencontres et des discussions autour du terrorisme, des droits de l'homme et de la guerre civile au Soudan du Sud. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Nouvelle visite inédite pour Barack Obama. Après le Kenya, pays de son père, il devient également le premier président américain en exercice à se rendre en Éthiopie. Le locataire de la Maison Blanche s'entretiendra aujourd'hui avec Hailemariam Desalegn, le premier ministre éthiopien. Il rencontrera également des chefs d'État est-africains pour évoquer le conflit sud-soudanais. Barack Obama est attendu demain pour un discours au siège de l'Union africaine. L'Éthiopie, qui participe à l'AMISOM, la force de l'Union africaine combattant les islamistes Shabab en Somalie, est un allié crucial des États-Unis dans sa lutte contre le terrorisme dans la Corne de l'Afrique. Mais le pays est aussi régulièrement accusé de violer les droits de l'homme et notamment d'étouffer les critiques émanant de journalistes ou d'opposants politiques. La coalition de M. Hailemariam vient de remporter haut la main les dernières législatives, raflant tous les sièges au Parlement.
Une attaque à la voiture piégée contre un hôtel de Mogadiscio, revendiqué par les islamistes somaliens du groupe Al-Shabaab, a fait au moins 13 morts et 25 blessés hier, pour la plupart des gardes de sécurité, d'après un bilan provisoire. Les djihadistes ont affirmé avoir agi en représailles à de récentes offensives menées contre eux dans le sud somalien.
En Guinée, le principal opposant, Seloud Alain Diallo, a été désigné samedi candidat à la présidentielle d'octobre par son parti, après avoir noué une alliance controversée avec l'ex-chef de la junte, Moussa Dadis Camara, inculpé pour le massacre d'opposants en 2009 à Conakry. On écoute Seloud Alain Diallo.
Le projet que je vais de nouveau présider sera un parti cohérent, ouvert, sans clan ni faction, et dont je garantirai l'unité. Je m'engage à être un président gardien vertueux de notre constitution. Je m'engage à être un président respectueux de la parole donnée et des engagements pris. À être un président de l'indépendance de la justice, de la neutralité et de l'impartialité de l'administration. Je m'engage à être président d'une Guinée apaisée et réconciliée. Sans un processus électoral transparent et équitable, il n'y aura pas d'élection. L'UFDG et les partis amis et alliés de l'opposition républicaine ne participeront pas à des simulacres d'élections pour légitimer une victoire acquise d'avance. Notre vocation, c'est de participer aux élections, mais à des élections transparentes. Et si elles le sont, si nous perdons, nous allons le reconnaître. Si nous gagnons, nous n'accepterons pas que notre victoire soit confisquée.
Le président soudanais Omar el-Béchir, visé depuis 2009 par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, est arrivé hier en Mauritanie pour un sommet sur la Grande Muraille Verte, un projet pour stopper l'avancée du désert. Omar el-Béchir ne devrait pas être inquiété en Mauritanie, qui ne fait pas partie des pays africains signataires du traité de Rome instituant la CPI, qui le poursuit pour génocide au Darfour.
En Sierra Leone, le président Ernest Koroma a annoncé un plan de relance post-Ebola pour redresser l'économie, mais aussi les secteurs de la santé et de l'éducation. Selon les autorités sanitaires, le pays ne compte plus que 3 malades d'Ebola. Henri Francisque.
Le plan de relance du président Sierra Leone fait suite aux promesses de financement recueillies le 10 juillet dernier lors d'une conférence internationale des Nations Unies consacrée à la lutte contre l'Ebola. Plus de 804 millions de dollars ont été promis pour la Sierra Leone, permettant la mise en place de ce plan de bataille pour vaincre Ebola, comme l'a intitulé le président Koroma. Peu de détails sur le déroulement de ce plan, mais le président s'est donné 9 mois pour redresser le pays et 2 ans pour retrouver le chemin de la croissance. Selon le communiqué de la présidence, le secteur privé doit être revigoré, le réseau routier transformé et l'accès au marché amélioré. L'accès à l'eau et à l'énergie sera parmi les priorités. La Sierra Leone devrait également bénéficier d'une partie de l'enveloppe supplémentaire de 1,7 milliard de dollars, promise également à New York pour une relance régionale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Turquie a poursuivi hier son offensive militaire contre les rebelles du PKK, parti des travailleurs du Kurdistan, qui ont riposté en revendiquant un attentat suicide ayant provoqué la mort de 2 soldats et rompu la fragile trêve en vigueur depuis 2013. Signe de forte tension qui agite la Turquie depuis une semaine, un policier a été tué par balle à Istanbul dans de violents affrontements avec des manifestants d'extrême gauche.
Au Yémen, les rebelles chiites Houthis ont attaqué une localité dans le sud du pays peu après l'entrée en vigueur dans la nuit de dimanche à lundi d'une trêve humanitaire décrétée par la coalition arabe qui les combat.
À Madrid, en Espagne, plus de 200 experts se réunissent aujourd'hui sous l'égide du Comité contre le terrorisme des Nations Unies. Ces spécialistes du terrorisme vont se pencher sur le phénomène des combattants étrangers qui rejoignent les mouvements djihadistes dans le but de proposer demain mardi des mesures aux pays membres. Nous écoutons Yann Saint-Pierre, il est spécialiste des mouvements terroristes.
La solution, elle doit être polyvalente, elle doit être adaptable, elle doit inclure tous les acteurs, non seulement qui sont touchés, mais aussi qui peuvent jouer un rôle. On parle de citoyens normaux, de gens qui s'engagent pour la sécurité communautaire, pour le développement, pour l'éducation. On parle des acteurs policiers, de l'armée, des acteurs gouvernementaux, des politiciens, la communauté d'affaires doit jouer un grand rôle pour donner à ces jeunes qui semblent beaucoup plus attirés par les perspectives de vie, les offres que l'État islamique semble leur proposer, pour faire en sorte que rester à la maison, que les perspectives d'avenir soient de nouveau localisées. La force de l'État islamique, c'est qu'en ce moment, c'est une organisation qui a énormément de succès. C'est une organisation dont la portée est réellement mondiale. Et donc, c'est quelque chose qui est très, très attirant. Elle joue énormément sur l'aspect romantique du terrorisme, c'est-à-dire qu'il offre aux jeunes une place, un sens à la vie. Il leur donne une importance qu'ils ont l'impression qui fait défaut chez eux, que ce soit en Tunisie, en Libye ou ailleurs. Et donc, c'est impératif que les communautés, les pays atteints doivent trouver une façon de contrer l'aspect romantique du terrorisme offert par l'État islamique.
Yann Saint-Pierre du groupe Mossecon, joint à Berlin par Claire Morin-Gibourg.
Une cour d'appel du Caire a réduit de moitié hier la peine de prison infligée en première instance à une Égyptienne poursuivie pour incitation à la débauche. Après la diffusion d'un clip dans lequel elle dansait de façon suggestive, la jeune femme Reda Al-Fouli avait été condamnée à 1 an de prison par un tribunal correctionnel du Caire en juin.
Et puis ici aux États-Unis, Bobby Christina Brown, fille unique de la légende de la pop musique Whitney Houston et du chanteur Bobby Brown, est décédée hier à l'âge de 22 ans. La jeune femme avait été trouvée inconsciente dans sa baignoire le 31 janvier à son domicile d'Atlanta en Géorgie. Elle avait été ranimée par des équipes d'urgence mais avait perdu une partie importante de ses fonctions cérébrales et était restée plongée dans le coma ces 6 derniers mois. L'accident de Bobby Christina Brown, lié apparemment à une overdose, rappelle étrangement celui de sa mère trouvée morte dans une baignoire dans un hôtel de Los Angeles le 11 février 2012, la veille de la cérémonie des Grammy Awards. De nombreux fans ont posté des messages de soutien à la famille sur Twitter, déclarant que Bobby allait finalement se retrouver avec sa mère bien-aimée. Les parents de Bobby Christina Brown s'étaient séparés en 2006.
À l'écoute de VOA Afrique, c'est l'heure de la Minute Éco, présentée ce matin par Félix Yepassis Zembrou.
La Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, a accordé au gouvernement béninois un prêt d'un montant de 15 milliards de francs CFA pour le financement partiel du projet de pavage de rues et d'assainissement dans 12 villes au Bénin, indique un communiqué publié vendredi à Cotonou. Il est prévu l'éclairage des principales voies à aménager dans le même projet qui s'inscrit dans un programme qui concerne toutes les 77 communes du Bénin. En marge du sommet international sur l'entrepreneuriat du week-end au Kenya, la secrétaire américaine au commerce, Penny Pritzker, a annoncé que les États-Unis lanceront cette année un roadshow africain des investisseurs. L'objectif sera de mettre en contact les entrepreneurs avec de potentiels investisseurs américains dans le cadre des efforts pour accroître le commerce avec le continent africain. Les pays membres de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, sont parvenus à un accord décisif sur le commerce des produits des technologies de l'information TI représentant 1300 milliards de dollars, a indiqué l'OMC dans un communiqué vendredi. Les pays membres qui représentent les principaux pays exportateurs de produits TI ont convenu d'éliminer les droits de douane sur plus de 200 de ces produits. Parmi ces produits figurent les nouvelles générations de semi-conducteurs, les systèmes de navigation GPS, des appareils médicaux tels que les IRM, des machines-outils pour les circuits imprimés, des satellites de télécommunication et des écrans tactiles. Selon l'AFP, le texte va à présent être finalisé pour être présenté à la signature officielle lors de la prochaine conférence ministérielle de l'OMC prévue en décembre à Nairobi.
Nous passons maintenant à notre page sport et nous retrouvons Élisée Oumpatine. Élisée.
Oui, bonjour.
Élisée est levée de rideau de la Coupe du Monde 2018 en Russie avec le tirage au sort samedi à Saint-Pétersbourg des éliminatoires continentales. 5 zones concernées, mais pas l'Asie dont les qualifications ont déjà commencé. Gros plan sur l'Afrique.
Et c'est la main dure du Camerounais quadruple ballon d'or africain Samuel Eto'o qui a dévoilé le programme avec une formule de compétition en 3 étapes jusqu'en novembre 2017. Et tout commencera en octobre prochain pour les 26 moins bonnes nations du classement FIFA. Ces 26 pays s'affronteront en match aller-retour à élimination directe lors d'un premier tour les 5 et 13 octobre 2015. On assistera alors à 13 rencontres. Notons entre autres Gambie, Namibie, Sao Tomé, Éthiopie, Tchad, Sierra Leone ou encore Comores face à Lesotho. Les 13 pays vainqueurs iront ensuite à un deuxième tour pour affronter les meilleures nations au classement FIFA en novembre prochain. Citons la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Algérie ou encore le Cameroun. Et on n'oublie pas que ce deuxième tour est complété par 7 autres rencontres telles que Togo, Ouganda, Mozambique, Gabon, Maroc, Guinée équatoriale ou encore Bénin, Burkina Faso. Précisons que les 20 vainqueurs issus de ce deuxième tour participeront ensuite au troisième tour. C'est l'étape finale. Un tirage au sort répartira les 20 qualifiés en 5 groupes de 4 équipes qui s'affronteront et les premiers de ces 5 groupes seront qualifiés pour cette Coupe du Monde 2018 en Russie.
Sur le terrain maintenant, Élisée, la troisième journée des phases de groupe des Coupes d'Afrique des clubs a eu lieu ce week-end et en Ligue des Champions, le tenant du titre en grand danger.
L'entente de Sétif, tenue en échec un but partout sur sa pelouse par les Soudanais d'El Merriek. Les Algériens se retrouvent donc troisième dans ce groupe B avec une phase retour compliquée à gérer avec notamment un déplacement à Khartoum avec l'USM Alger qui caracole seul en tête avec 9 points suite à sa victoire de 2 buts à 1 face à El Ulm. Dans le groupe A, le tout-puissant Mazembe signe sa première victoire dans cette compétition grâce à son succès en déplacement face aux Égyptiens de Smoura 2 buts à 0. Les Congolais partagent la première place du groupe avec les Soudanais d'Al Hilal qui sont allés chercher le nul 1 but partout chez le Maghreb de Tétouan.
En Coupe de la Confédération, cette troisième journée des phases de groupe confirme la bonne forme du national du Caire.
Le Al Ahly, vainqueur solide de l'Étoile du Sahel 1 but à 0, reste en tête avec 7 points devant le Stade malien qui est allé battre l'Espérance de Tunis 2 buts à 1. Dans le groupe B, le club sportif sfaxien a perdu à domicile 1-0 face à Orlando Pirates. Et puis le Zamalek, invaincu jusqu'à présent, a eu raison des Congolais de lasser le pas de Dolizy 2 buts à 0.
Cyclisme sans surprise, Christopher Froome a remporté dimanche son deuxième Tour de France.
Effectivement, le Britannique est monté sur la plus haute marche du podium après la dernière étape sur les Champs-Élysées remportée par l'Allemand André Greipel. Christopher Froome signe du coup sa deuxième victoire en 5 participations. Et puis Formule 1 pour finir, Sébastien Vettel de la Ferrari a remporté le Grand Prix de Hongrie devant les Red Bull du Russe Daniil Kvyat et de l'Australien Daniel Ricciardo. C'est la deuxième victoire de l'année pour le pilote allemand. Les deux Mercedes de Lewis Hamilton et Nico Rosberg sont 6e et 8e.
Voilà pour les sports. Merci Élisée Moupatine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà donc pour le journal. Vous êtes toujours branchés sur la VOA émettant de Washington. Jacques Aristide au micro. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. C'est l'heure maintenant d'entamer la tranche magazine. Cap d'abord sur le Congo-Brazzaville où l'opposition a ouvert hier son propre dialogue en réponse à celui que le gouvernement a récemment organisé à Sibiti. Plusieurs voix discordantes s'élèvent en effet sur les conclusions obtenues au dialogue de Sibiti, notamment concernant le changement de la constitution. À Brazzaville, Nguela Ngoussou.
Le dialogue alternatif de l'opposition qui s'achève mercredi prochain serait-il le résultat du manque de consensus recherché plus tôt à Sibiti? En tout cas pour Pierre Ngolo, le secrétaire général du PCT, le parti au pouvoir, c'est une très mauvaise interprétation du communiqué final que de penser qu'il n'y a pas eu consensus sur le changement de constitution à Sibiti.
Au niveau de la plénière du dialogue, il y a un consensus qui s'est dégagé. Le communiqué final est clair. Quand il dit... En considération de ce qui précède, les participants au dialogue ont par consensus opté pour les réformes institutionnelles et s'en remettent au président de la République, initiateur du dialogue, pour qu'il en tire les conséquences conformément à ses prérogatives constitutionnelles. Donc il y a un consensus qui dépasse les divergences constatées dans le débat.
Faux, rétorque Joseph Kinyumi Kiambungu, député de l'opposition qui s'est rendu à Sibiti et qui estime que le président Denis Sassou Nguesso, en tirant les leçons de Sibiti, doit tenir compte de l'opinion qui s'oppose catégoriquement au changement de constitution.
La majorité pensait qu'il fallait changer. Et nous, l'opposition, nous avons dit non, il n'y a pas de raison de changer. Donc, il n'y avait pas déjà consensus autour de cette question. Il n'y avait pas de consensus. Et il n'y en a pas eu jusqu'à la fin. Il y a eu 3 tendances. À partir du moment où nous n'avons pas de consensus, il fallait, s'ils étaient logiques avec eux-mêmes, les 3 tendances devaient discuter pour arriver à un consensus. Maintenant, nous attendons ce que le président fera de sa copie. Et il savait très bien qu'avant même ce dialogue, il y avait des points de vue qui étaient différents. Je crois que le dialogue alternatif, comme il le qualifie, parlera certainement du non au changement de la Constitution. Je l'ai déjà dit. Maintenant, s'il était question qu'on m'appelle pour aller, pourquoi pas ? J'irai donner mon point de vue, mais pour le moment, je ne suis pas friand de parler plusieurs fois de la même chose.
Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
En Guinée, le président Alpha Condé propose un débat sur le port du voile intégral qu'il estime être un problème. Le chef de l'État a rencontré ce week-end des étudiants pour évoquer la question. De Conakry, la correspondance de Zakaria Camara.
Le port du voile intégral pose un problème en Guinée, a alerté le président Alpha Condé à l'université générale Lansana Kanté de Sonfonia. Je demande un débat national sur la question pour savoir s'il faut ou pas interdire cette façon de s'habiller, s'est-il expliqué devant les étudiants de la capitale.
Quand une femme a seulement son visage, qui peut savoir si c'est une femme? On ne peut pas savoir. Deuxièmement, il peut avoir une arme, il peut avoir une kalachnikov. Et venir s'y tirer sur les gens. Donc j'ai dit, il faut qu'on réfléchisse à la question. Moi, je suis président d'un État laïque. C'est-à-dire que je projette toutes les religions. Je dois assurer la sécurité de la Guinée.
Assurer la sécurité des Guinéens, surtout face à des menaces, dont le président Condé a su trouver le nom pour mieux se faire comprendre.
Aujourd'hui, tous nos pays sont menacés. Il y a une semaine, les Français m'ont appelé pour me dire, attention, on va vous attaquer à Mandiana. Donc j'ai été obligé d'envoyer l'armée et la gendarmerie aujourd'hui à la Mandiana et à d'appeler le Mali. Donc on va s'asseoir qu'on ait ce qu'on appelle les cellules dormantes, c'est-à-dire des gens qui sont là, qui sont avec eux, mais qui n'aident pas pour le moment, qui à tout moment peuvent être réveillés.
Première rencontre avec les étudiants, le président Condé a accepté d'aborder des questions liées à l'élection présidentielle. Alpha Condé a dit qu'il est temps de respecter la loi.
Les élections législatives sont finies. La Guinée est maintenant un état normal. On n'est pas en transition. Il y a un gouvernement, il y a un parlement. Maintenant, on respecte la loi. Ceux qui ne veulent pas respecter la loi, c'est leur problème. Ceux qui font qu'il n'y a plus de confrontation, il n'y aura pas de confrontation en Guinée. Quand on demande un, quand on donne, il demande cinq. Parce qu'on a accepté ça sous les législatives. Mais maintenant, il se tombe.
Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
Le peuple burundais déterminé à défendre l'accord d'Arusha après les dernières élections générales. C'est ce qu'a confié à VOA Afrique Maître François Niyamoya. Ce leader de l'opposition burundaise et secrétaire général du MSD, Mouvement pour la solidarité et la démocratie, est d'avis que Pierre Nkurunziza conduit le pays vers la catastrophe. Nous l'écoutons au micro de Eric Manirakiza.
Il va au-delà de grandes difficultés, mais si ce n'était que sa propre personne, ça irait. Mais le problème, c'est qu'il emmène tout un peuple dans de grandes difficultés, parce que au-delà des élections qui sont pas crédibles, je le répète, il y a derrière tout cela l'accord d'Arusha, qui est la colonne vertébrale de la paix au Burundi. Et il est évident que cette élection a mis à mal non seulement l'accord d'Arusha et la constitution, mais il hypothèque par conséquent l'avenir, parce que notre pays a été fondé justement sur l'accord d'Arusha comme garant de la paix.
Vous parlez justement de l'accord d'Arusha. Est-il possible aujourd'hui de le faire respecter?
Il n'y a pas de choix. Il faut distinguer deux choses. Il y a la volonté du président de la République et son équipe de violer la Constitution et même de l'abolir d'une certaine manière. Ça, c'est sa volonté. Mais ça ne peut pas marcher. Nous sommes tous obligés de le défendre. Et il aura en face de lui des gens déterminés à défendre l'accord d'Arusha. Donc nous allons nous battre et nous serons nombreux à résister pour que l'accord d'Arusha reste debout.
Il y a eu des manifestations dans la capitale, dans certains coins de l'intérieur du pays, mais malgré tout ça, ça n'a pas eu des effets pour faire résonner le président Nkurunziza.
Ces manifestations ont montré à quel point la population burundaise est attachée aux accords d'Arusha et à la constitution qui en est issue. Le point positif, malgré tout, c'est que le président Nkurunziza sait que le peuple n'est pas avec lui et qu'il a violé, en fait, le peuple. Donc, il n'a pas voulu entendre cette voix, mais à court terme et à très court terme, ça se retournera contre lui, puisqu'on ne peut pas gouverner contre son peuple. C'est impossible.
Comment, finalement, tout va se terminer?
Je ne suis pas devin, mais ça ne va pas se terminer paisiblement, en tout cas, parce que, de toute façon, il a dans la nature de ce pouvoir d'être violent et de ne comprendre que la violence. Et même ce forcing, c'est de la violence. Un gouvernement qui ne comprend que le langage de la violence, et il ne peut mener un pays que dans cette voie. Et il faut que tout le monde soit vigilant, très vigilant, pour éviter une catastrophe. Parce que ce monsieur nous emmène dans une catastrophe.
Maître François Niyamoya, secrétaire général du MSD, joint à Bujumbura. Blocage dans la mise en application de l'accord pour la paix au Mali. Les travaux du comité de suivi ont été suspendus. Comité dont la composition pose problème. À Bamako, Kassim Traoré.
La troisième session des travaux du comité de suivi de l'accord pour la paix au Mali a permis l'adoption du règlement intérieur de ce comité. Amadou Konaté, ministre malien chargé de la reconstruction du Nord.
Le règlement intérieur, c'est le document qui permet de dire comment le comité s'organise et quels sont les critères de participation à ce comité-là comme membre statutaire. Un point important du règlement intérieur, c'est la mise en place des sous-comités et que les sous-comités puissent travailler le plus rapidement possible.
La convergence tant souhaitée pour la représentativité des membres de ce comité n'a pas été possible, d'où le blocage et la suspension des travaux. Nourdine Ayadi, ambassadeur de l'Algérie au Mali, chef de la médiation.
Nous sommes très proches d'un accord sur cette question, mais nous n'avons pas encore un accord total. Des consultations se poursuivront et nous avons bon espoir que nous parviendrons à un accord définitif sur cette question.
Le ministère de l'administration territoriale annonce dans la même foulée la tenue des élections couplées municipales et régionales pour le 25 octobre prochain. Les responsables des partis politiques ont des avis divers.
Que toutes les dispositions soient prises pour que la date, si elle devait être maintenue, conditions soient réunies. Du côté technique, le ministre nous a donné quelques assurances, mais il n'est pas le seul parce qu'il y a d'autres secteurs qui interviennent.
Pour nous, il y a des préalables. Il faut d'abord accomplir avant d'aller aux élections. Mais telle n'est pas la vision du ministre. Aujourd'hui, aller aux élections comme telle, cela suppose permanemment ne pas respecter l'accord. Deuxièmement, la révision qui est prévue. Il y a des cercles qui ne pourront pas participer aux élections.
En tout cas, les officiers supérieurs de l'armée malienne ont présenté au chef du gouvernement malien le plan stratégique de démobilisation, désarmement et réintégration appelé DDR. Shogel Kokala Maïga, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement.
C'est un document au stade de projet qui doit faire forcément l'objet de discussions avec l'ensemble de nos partenaires pour être discuté et servi de base pour que les DDR se fassent dans la plus grande sérénité parce que c'est un élément essentiel de la stabilisation du pays.
Pour le secrétaire général du Front populaire de l'Azawad FPA, les Maliens doivent se mettre à la construction d'une paix définitive. Hassan Agmeidi dit Jimmy l'ex-rebelle.
Ce qui va nous amener la paix est que chacun se mette dans la tête que c'est une paix des Maliens et que chacun se retrouve là-dedans et que chacun se sente concerné. Et je sais que je suis fatigué d'être embarqué et d'être trimballé dans du faux. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est d'être dans quelque chose de concret. Même si ça nous prend 10 ans, l'essentiel est qu'on se retrouve dans une paix définitive.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Les travailleurs du secteur du pétrole montent au créneau pour dénoncer leurs conditions. Les partenaires chinois, actionnaires majoritaires dans les deux principales sociétés du pays, sont accusés de ne pas respecter les règles. Reportage à Niamey de notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Au niveau de la société de raffinage de Zender, la Soraz, les problèmes datent de 2012, soit une année après le démarrage des activités. Ces problèmes ont pour nom absence de statut et de grille de salaire pour le personnel nigérien, absence de plan de formation et bien d'autres. Des luttes menées par les délégués de ce personnel ont conduit à des engagements de la part de la direction générale de la société pour les résoudre, lesquels engagements devaient être entérinés par le conseil d'administration de la Soraz. Elimi Boukar est le secrétaire général du syndicat des travailleurs nigériens de la Soraz.
Au cours de 9 mois, il y a eu 3 conseils d'administration. Il y a la question donc, de la grille salariale du personnel nigérien qui est inscrit à l'ordre du jour. Il y a la question donc, du statut du personnel qui sont inscrits à l'ordre donc, de ce conseil. J'ai dit pour la 3e fois, le conseil n'a pas décidé vraiment de donner une suite à cette doléance. Cet échec s'explique par la mauvaise volonté et la mauvaise foi de nos partenaires chinois qui sont soutenus par un certain nombre de dirigeants internes qui sont donc au niveau donc, de la Soraz et que ces dirigeants bénéficient, ils s'octroient eux-mêmes de marcher dans leurs différents services. Ils contribuent à la mauvaise gestion et de ce fait aussi donc, à l'exploitation donc, de ce personnel nigérien.
Les problèmes sont presque identiques pour les travailleurs qui sont sur le site d'extraction du brut, comme en témoigne le secrétaire général du syndicat des travailleurs du pétrole, Seydou Abdou.
On vit les mêmes problèmes. Mais quant à Agadem, je vais vous notifier quelque chose qui se passe actuellement sur le terrain. Aujourd'hui, des travailleurs nigériens travaillent sur ce site et qui ne disposent même pas des contrats de travail. Sur le plan discrimination, des Chinois qui vivent dans des conteneurs et des Nigériens qui vivent dans des tentes. Vous vous imaginez la chaleur qu'il fait là-bas. Aujourd'hui, quand un Nigérien tombe malade, il a toutes les difficultés dans sa vie.
Engagé dans le combat pour la transparence dans la gestion des industries extractives, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire rotable fait sienne cette lutte des travailleurs nigériens des sociétés d'exploitation du pétrole. Ali Idrissa et son coordonnateur.
Que des Nigériens qui sont plus de 400 ont 13% d'une masse salariale, pendant que d'autres s'octroient 87% de cette masse salariale, au vu et au su du gouvernement nigérien, je pense que c'est extrêmement grave. La situation doit nous interpeller tous pour que nous nous mobilisions, pour que cette situation de dérive au niveau des compagnies pétrolières dans notre pays cesse. Le rotable, comme nous l'avions fait avec les compagnies minières, nous allions écrire au ministre du pétrole pour exiger l'audit de ces compagnies, à savoir la Soraz, la CNPC et la Sonidep. Il n'est pas question qu'on puisse continuer impunément à assister à cet esclavagisme moderne.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
L'édition matinale du Monde aujourd'hui, en ce lundi 27 juillet, prend fin ici à la réalisation Anne Albertson. John Ellison était notre ingénieur, au micro Jacques Aristide. Depuis Washington, nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. À demain matin. Take care.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.